Écoutez aujourd'hui une émission qui vous est présentée par le pasteur Elios Mikel.
Chères auditrices, chers auditeurs, heureux de vous retrouver à l'écoute. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Merci pour votre fidélité à l'écoute de FM Évangile 66. C'est bien connu, l'actualité, pour exister dans le temps présent, doit chasser celle qui l'a précédée, ce qui faisait l'actualité juste avant elle. Comme certains l'ont dit, une actualité chasse l'autre. Dans le domaine des faits divers tragiques, nous sommes servis, hélas, trop bien, puisqu'ils génèrent inévitablement beaucoup de souffrances et de larmes. Il en va comme les flots de la mer, un roulement incessant, un flot succède à un autre flot. Certains drames sont récurrents, catastrophes naturelles, crash aérien, carambolage sur route et autoroute, explosion sur terre ou sous terre. Ils causent de très nombreuses victimes et leur nombre est trop souvent encore augmenté par des faits de violence aveugle, agressions de toutes sortes, allant des disputes conjugales aux pires actes de guerre. Comme l'a écrit Salomon dans le livre de l'Ecclésiaste, « Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. » Depuis Abel, le frère de Caïn jusqu'à ce jour, des hommes, des femmes, des enfants meurent, assassinés par des proches ou des inconnus. Violence aveugle, gratuite, injustifiable. Cela provoque souvent une sourde colère parce que nous nous sentons démunis et impuissants face à ces faits divers, tragiques. De plus, ces sentiments sont exacerbés par le poids des images, les télévisions diffusant en continu des scènes dramatiques choquantes. L'Évangile nous rapporte deux faits divers tragiques survenus du temps de Jésus. Je lis Luc chapitre 13, verset 1er. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit: « Croyez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte ? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tuée, croyez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. » Voilà donc quelques personnes qui font part à Jésus de ce fait divers tragique, à l'origine duquel on trouve Pilate. Ponce Pilate, préfet de Judée. Les préfets du rang de Pilate étaient généralement envoyés dans des territoires barbares. Et c'est ainsi que les Romains considéraient la Judée. Non seulement Pilate faisait régner l'ordre, mais encore, il veillait à la perception des impôts indirects et de la capitation. Il détenait aussi l'autorité judiciaire suprême. Selon le rapport de l'historien Flavius Joseph, Pilate a réquisitionné les fonds du temple pour construire un système d'aqueduc pour Jérusalem. Les Juifs de Galilée étaient particulièrement exaspérés par cet acte. Ils étaient gouvernés par Hérode Antipas et non pas par Ponce Pilate. Par obligation religieuse, ils envoyaient de l'argent au temple, mais leur contribution était maintenant employée au profit de la Judée et non de la Galilée. À l'occasion de la grande fête, ils étaient à Jérusalem et ont manifesté, réclamant la restitution des fonds du temple. Non seulement la foule faisait obstruction au gouvernement romain, mais beaucoup insultaient le gouverneur lui-même. Pilate a commandé à la multitude assemblée de se disperser, mais celle-ci a refusé. Pilate avait envoyé au milieu de la foule des soldats romains, habillés comme les gens de l'endroit, avec des bâtons et des poignards cachés sous leurs manteaux. À un signal convenu au préalable par Pilate, les soldats ont attaqué et indifféremment, des spectateurs innocents aussi bien que les fauteurs de troubles ont été tués. Probablement, ces spectateurs innocents sont les Galiléens évoqués comme victimes dont le sang a été mêlé à celui de leur sacrifice par Pilate. Jésus va questionner ses interlocuteurs par ces mots. Croyez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Car dans l'esprit de certaines personnes, lorsque de tels faits tragiques se produisent, il y a comme une sorte de jugement de Dieu qui frapperait des coupables méconnus. Cela n'est pas. Ce qui m'interpelle ici, c'est que Jésus ne s'apitoie pas sur le sort tragique de ces hommes. Ses interlocuteurs, en lui racontant ce qui s'était passé, attendaient-ils une réaction indignée de Jésus? Espéraient-ils de sa part une condamnation du responsable de cette tuerie? Je ne sais. Pas d'indignation de la part de Jésus. Pas de condamnation. Pourtant, la violence est manifeste, aveugle et injuste. Mais qui oserait dire que Jésus est insensible, sans cœur? Meurtri par la souffrance, certains se révoltent et interpellent Dieu. Pourquoi ces choses se produisent-elles? D'autres vont jusqu'à mettre en doute l'existence de Dieu. S'il y avait un Dieu, bon de surcroît comme on me dit, il empêcherait de telles atrocités. Le fait que Jésus ne s'apitoie pas sur le sort tragique de ces Galiléens m'a interpellé. Car Jésus est compatissant, comme en témoignent les évangiles. Lorsqu'à l'entrée de la ville de Naïn, Jésus croise la route d'une veuve qui portait en terre son fils unique, accompagné par beaucoup de gens de la ville. En la voyant, il est ému de compassion pour elle. Il lui dit « Ne pleure pas !» Touchant le cercueil, Jésus dit aux morts, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi !» Le mort s'assoit et se met à parler. Jésus le rend à sa mère. Autre témoignage des Écritures. Un lépreux se jette aux pieds de Jésus et le supplie de le rendre pur. Ému de compassion, Jésus étend la main, le touche et l'homme est guéri. Je lis aussi Marc chapitre 9 verset 36. À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Quand Jésus demande, « Croyez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte ?» Jésus veut attirer l'attention de ses interlocuteurs sur la fragilité de leur vie. Et aussi, en les appelant à se repentir, il veut les inciter à se préparer à la rencontre de Dieu. Rendez-vous incontournable pour tout être humain, échéance qui peut intervenir à tout moment, parfois imprévue, par un simple fait divers tragique. Jésus pose la question et donne la réponse. « Non, je vous le dis, pas plus coupable. » Puis il ajoute « Mais, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. » Bien-aimés, laissons-nous interpeller d'eux-mêmes. Puissent ces événements tragiques dont nous sommes informés presque au quotidien nous amener à une sage réflexion. Lorsque la tour de Siloé est tombée et a provoqué la mort de 18 personnes, on évoque la fatalité, un concours de circonstances fâcheuses, imprévues et inévitables. Pour les victimes, c'était être au mauvais endroit, au mauvais moment. Cependant, certains faits divers tragiques que l'on considère comme imputables à la fatalité sont, après enquête, la conséquence de négligences humaines. Quoi qu'il en soit, et c'est le message donné par Jésus quand il répond à ses interlocuteurs, nous ne sommes pas assurés pour ce qui nous concerne de ne pas être confrontés à de tels événements. Jésus incite ses interlocuteurs à se préparer à une échéance inéluctable pour tout être humain, c'est-à-dire le rendez-vous avec la mort. Repentez-vous, soyez réconciliés avec Dieu. Nous devons le reconnaître, il y a chez l'homme de l'insouciance. Les vacances, toutes sortes de festivités, sont organisées pour évacuer de notre esprit les préoccupations de la vie courante. Cependant, le compte à rebours pour chacun est en cours, mais nous en ignorons le terme. Jésus a souligné cette insouciance en rappelant le temps du déluge. Je lis Matthieu chapitre 24, versets 37 à 39. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Bien-aimé, ne ferme pas ton oreille en cet instant, car parler de ces choses n'est pas dangereux même s'il s'agit d'évoquer notre propre mort. Une émission entière a été consacrée à divers comptes à rebours mentionnés par les Écritures. Le texte de cette émission et l'écoute en replay sont disponibles sur le site web de FM Évangile dans la rubrique « Émission », auteur Elios Miquel, mardi à 10h. Si quelqu'un n'a pas Internet et souhaite recevoir le texte du message, nous vous l'enverrons gratuitement. Il vous suffit d'en faire la demande. Nous poursuivrons notre méditation dans quelques instants. Restez avec nous.
Thank you.
mon ami le pasteur Paul Calzada, dans une des pensées qu'il propose chaque jour sur Internet dans sa chronique « Lueur du matin », a rappelé ce texte de l'Écriture. « Dieu a fait toutes choses belles en son temps, même il a mis dans le cœur des hommes la pensée de l'éternité. » Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Et il a ajouté « Tout être humain s'est un jour posé ce genre de questions. » Que se passe-t-il après la mort? Quel est le sens de la vie? Y a-t-il un au-delà? Pourquoi ces interrogations? Parce que la pensée de l'au-delà, de l'après-vie, est une pensée qui est inscrite dans notre patrimoine humain. La pensée de l'éternité nous a tous effleurés un jour ou l'autre. Nous pouvons la repousser, la refuser, l'étouffer, la passer sous silence ou nous en moquer. Mais elle est là, au plus profond de chaque être humain. Nous avons été programmés pour y penser. Le fait même que le matérialiste dise qu'il n'y a rien après la mort nous indique qu'il s'est posé la question de l'au-delà. Il refuse l'idée d'un au-delà. Il évoque divers arguments, mais cela nous prouve qu'il n'a pas pu échapper à cette pensée de l'éternité. La nature profondément religieuse de l'espèce humaine, en quelque lieu ou sous quelque forme que ce soit, nous démontre que tous les hommes ont cette pensée inscrite dans leur cœur. Il est vrai que certains ne sont travaillés par cette pensée qu'au moment où ils enterrent quelqu'un ou encore lorsqu'une maladie grave les terrasse. Nous avons en mémoire les propos du président François Mitterrand, déclarant, lors de ses derniers vœux adressés aux Français, « Je crois aux forces de l'esprit, je ne vous quitterai pas. » La pensée de l'éternité était présente en lui comme en chacun de nous. Notre vie sur la terre est un passage très court et nous devons penser sérieusement à l'éternité. Qu'en sera-t-il de votre éternité? Si Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité, c'est pour que nous nous préparions dès ici-bas à cette éternité. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean chapitre 14, verset 6. Notre acceptation de Christ comme Sauveur et la seule voie du salut éternel. Je ne sais si vous avez pensé à vous tourner vers lui, mais si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire, car l'Écriture dit « Celui qui a le Fils, il a la vie éternelle. » 1er épître de Jean, chapitre 5, verset 11. Paul Calzada nous donne un conseil pour ce jour. Puisque vous ne pouvez échapper à cette pensée de l'éternité, au lieu de chercher à l'étouffer ou de vous laisser gagner par la crainte, l'incertitude et la peur de la mort, préparez cette éternité en acceptant Jésus comme votre Sauveur. Si vous avez déjà fait cette démarche, gardez vos pensées centrées sur Jésus et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence sera votre partage. Philippiens chapitre 4, verset 7. Fin de citation. Nous poursuivons notre réflexion à propos des faits divers tragiques. Ils font, hélas, l'actualité à une fréquence semblable au flot de la mer. Comme nous l'avons souligné, certains sont imputables à la fatalité, d'autres à la négligence humaine, voire au déchaînement de violence que l'homme peut générer individuellement ou collectivement. Bien-aimés, avez-vous été atteint par ces drames? Êtes-vous meurtri physiquement ou moralement? Parfois l'amertume envahit notre âme à cause de l'injustice de telles conséquences, surtout si l'on nous explique que ce sont des dégâts collatéraux inévitables. Et pour certains, la tentation est grande de rendre Dieu responsable. Nous ne sommes pas ses avocats, et n'avons pas, si on peut dire, à plaider sa cause. Nous sommes là pour témoigner de son amour pour les hommes, pour ses créatures. Il en a donné une preuve éclatante. Dans sa lettre aux Romains, l'apôtre Paul écrit « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Et la bonne nouvelle, c'est que non seulement Christ est mort pour nos péchés, mais bien plus, il est ressuscité pour notre justification. L'Évangile est comme une main tendue de Dieu vers chacun de nous. Bien-aimés, le Seigneur est près de chacun de vous. Il vous connaît, il vous entend. Dites-lui ce qui vous révolte, ce qui vous fait mal. Dites-lui votre détresse. Appelez-le à votre secours. Je peux en témoigner. Il ne manquera pas de répondre à votre prière. Il fait tout à merveille. Alléluia. Le Seigneur veut mettre un baume sur votre cœur si vous lui donnez votre accord, car il n'impose jamais sa présence ni son secours. Toutefois, en cet instant, il est près de vous. Alors ne tardez plus et priez avec assurance celui qui vous aime. Parlez-lui simplement avec votre vocabulaire, comme à un ami assis en face de vous. Dans quelques instants, nous parlerons d'une autre catégorie de faits divers tragiques. Il est une autre catégorie de faits divers que je qualifie aussi de tragiques, précisément à cause des dégâts collatéraux qu'ils induisent, car ils sont le fait d'hommes religieux. Jésus a dit à ses disciples, Luc chapitre 17, verset 1, « Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mette à son cou une pierre de moulin et qu'on le jette dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Inutile de pointer du doigt une ou autre religion. Tant qu'il y aura des hommes, il y aura des scandales. Jésus l'a annoncé afin que nous ne soyons pas surpris et anéantis par ces choses quand elles se produisent. Cependant, n'oublions jamais que l'on ne juge pas d'une cause par ceux qui la trahissent. Les hommes nous décevront toujours, le Seigneur jamais. Dans sa jeunesse, mon père avait été témoin oculaire de faits scandaleux, et il n'est pas utile de les mentionner. Hélas, encore de nos jours, il défrait épisodiquement la chronique et certains médias ils trouvent matière à augmenter leur audience ou leur vente. Pour mon père, le résultat a été l'implosion de la foi en Dieu que sa mère, une femme très pieuse, avait cherché à lui transmettre. Et mon père de raisonner et de dire, je cite, « S'il y a un Dieu, il n'est pas possible qu'il permette que ses soi-disant représentants agissent de la sorte. Voilà pourquoi il a vécu la majeure partie de sa vie tel un athée, toutefois en respectant les convictions religieuses de chacun autour de lui. Dans ses derniers jours, la pensée de l'éternité qui était en lui, comme en chacun de nous, l'a conduite à demander à ma sœur cadette, qui était à son chevet, je cite, « Qu'est-ce que je dois lui dire au Seigneur ? Qu'est-ce que je dois lui dire ?» Car il savait que dans la famille, ma sœur aînée en premier, nous avions tous fait une belle confession de foi lors de notre baptême, quand nous avons été en âge de raison, conscients de notre engagement dans la foi, selon la voie montrée par Jésus dans l'Évangile. Il n'y a pas de parole particulière à exprimer, sinon celle venant de notre cœur, avec le vocabulaire qui est propre à chacun, par lequel nous faisons réponse à son appel. Car l'Évangile est une parole que l'on entend, que l'on croit et que l'on reçoit. Cette révélation constitue un appel auquel nous répondons en confessant que nous sommes des pécheurs et que nous croyons au moyen de grâce que Dieu nous a donné. Nous acceptons Jésus comme notre Sauveur et Seigneur. Et la paix de Dieu nous envahit comme un témoignage intérieur qui nous assure que désormais nous sommes à lui, que nous sommes devenus ses enfants. Bien-aimé, as-tu fait une telle démarche ? Connais-tu la paix que Jésus donne ? Es-tu réconcilié avec Dieu ? Bien-aimé, ce jour est spécial pour toi. L'actualité dont les médias se feront l'écho peut être remplie de faits divers tragiques, mais pour toi, par ta décision de saisir la vie éternelle que Dieu met devant toi, tu marqueras ce jour comme étant le jour du salut qui sera non pas seulement celui d'un simple fait divers heureux pour ta vie, mais bien celui où, comme l'a dit Jésus à Saul de Tarse lors de sa vocation, je cite le texte de Actes chapitre 26 verset 18, ce jour sera pour toi celui où l'Évangile t'a ouvert les yeux et où tu es passé des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, et que tu as reçu par la foi en Jésus le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Certes, ta décision ne fera pas la une des journaux télévisés comme les trains qui arrivent à l'heure, mais il est bon de rappeler cette réalité annoncée par Jésus. Luc chapitre 15, « Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Alléluia. Aujourd'hui, le ciel pavoise pour toi. Bien-aimé, à l'occasion, fais-nous part de la grâce que le Seigneur t'a accordée ce jour. Pour terminer notre réflexion, j'évoquerai maintenant une autre atrocité, celle perpétrée par des religieux qui tuent au nom de leur Dieu. Le zèle aveugle qu'ils déploient est tout simplement du fanatisme. Faisons un peu d'histoire. En 1209, la ville de Béziers fera l'objet d'un terrible carnage. Basse besogne de croisés venue éradiquer hérésie et hérétique. La célèbre phrase de leur chef aurait été prononcée à ce moment-là. Je la cite, « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. » Fin de citation. Car tous les habitants de la ville n'étaient pas des cathares. Le 24 août 1572, à Paris, le jour de la Saint-Barthélemy est devenu célèbre par le massacre de protestants. Au long de l'histoire, un constat tout simple a été fait. Les groupes majoritaires, religieux, ethniques ou autres, ont très souvent tenté d'éliminer les minorités qui ne partageaient pas leurs croyances ou leurs objectifs. La chute de la tour de Siloé rappelée par Jésus nous pousse à certaines réflexions. Fatalité ou conséquence due à une négligence humaine ? Des spécialistes de la météo nous expliquent que des catastrophes qualifiées de naturelles sont la conséquence d'un dérèglement de la nature dû à l'action de l'homme urbanisant à tout va, mettant du bitume partout, etc. Ces spécialistes ne pointent pas Dieu du doigt pour le rendre responsable de ces drames qui font de nombreuses victimes et des dégâts considérables. Qu'en est-il des atrocités, voire de génocides commis par lors de guerres? Qu'en est-il également des meurtres perpétrés au nom de Dieu? Un jour, Jésus est apostrophé par des pharisiens et des maîtres de la loi. « Pourquoi tes disciples désobéissent-ils aux règles transmises par nos ancêtres? Car ils ne se lavent pas les mains selon la coutume avant de manger. » Tout le récit est tiré de Matthieu chapitre 15. À la foule, Jésus dit, je cite, « Écoutez et comprenez ceci. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche d'un homme qui le rend impur. C'est ce qui sort de sa bouche. Voilà ce qui le rend impur. » Jésus explique ses propos en précisant que ce qui entre dans la bouche de quelqu'un passe dans son ventre et sort ensuite de son corps. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est cela qui rend l'homme impur. Car de son cœur viennent les mauvaises pensées qui le poussent à tuer, commettre l'adultère, vivre dans l'immoralité, voler, prononcer de faux témoignages et dire du mal des autres. Je répète cette parole de Jésus, car de son cœur viennent les mauvaises pensées qui le poussent à tuer, commettre l'adultère, vivre dans l'immoralité, voler, prononcer de faux témoignages et dire du mal des autres. Voilà ce qui rend l'homme impur. Mais manger sans s'être lavé les mains, selon la coutume, cela ne rend pas l'homme impur. La source du mal est clairement soulignée par Jésus. Le cœur de l'homme. Aucun habillage religieux ne peut apporter de remède. L'apôtre Paul nous le précise en prenant son propre exemple. Il confesse, je cite, « Avoir été un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Cependant, dit-il, il m'a été fait grâce parce que j'agissais par ignorance dans mon incrédulité. » 1 Timothée chapitre 1 verset 13. Paul précise ceci, « Je suis juif, né à Tarse en Cilicie, mais c'est ici, dans cette ville, que j'ai été élevé et que j'ai reçu au pied de Gamaliel une formation strictement conforme à la loi de nos pères. J'étais un partisan farouche de Dieu. » Actes chapitre 22, verset 3. Il précise encore, je cite, « J'ai vécu en tant que membre du parti le plus strict de notre religion, celui des pharisiens. Pour ma part, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison beaucoup de chrétiens, car j'en avais reçu le pouvoir des chefs des prêtres, et quand on les condamnait à mort, je votais contre eux. Dans toutes les synagogues, je les ai souvent fait punir, et je les forçais à blasphémer. Dans l'excès de ma fureur contre eux, je les ai même persécutés jusque dans les villes étrangères. » Actes chapitre 26. Il agit par ignorance, comme aveuglé, fanatisé, avec un cœur rempli de haine. Jésus l'a transformé. Seul Jésus peut changer le cœur de l'homme. Oui, bien-aimé, écoutez sa parole qui nous dit « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Amen. »